Je veux la miséricorde et non le sacrifice. C'est ce qu'on retrouve en Matthieu 12, versets 5 à 8. N'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple et ne sont pas coupables? Or, je vous dis qu'il y a ici quelque chose de plus grand que le temple, et si vous saviez ce que signifie « je veux la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui ne sont pas coupables, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Pourquoi dit-il, si vous saviez ce que signifie je veux la miséricorde et non le sacrifice? Parce que il cite Osée 6:6, qui annonce la venue de Jésus avec l'expression car je prends plaisir à l'amour et non au sacrifice. Et c'est présenté différemment dans la deuxième partie de ce verset. À la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. C'est le même sens qui est présenté de deux façons différentes. Remarquez que la connaissance de Dieu dont on parle n'est pas la connaissance de la Bible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est celle du sens du message par l'esprit. En fait, c'est totalement différent. On peut parfaitement connaître la Bible sur le bout des doigts comme les théologiens et n'avoir pas la moindre idée de cette connaissance de Dieu, justement, qui s'opère par l'esprit. D'ailleurs, on peut remarquer que les Juifs, donc les 500 000 Juifs de l'époque, avaient tous la Bible, la Torah, l'Ancien Testament et pas le Nouveau, mais ça n'a pas changé grand-chose pour l'arrivée de Jésus, puisqu'ils avaient en fait l'évangile vivant, en fait. Ils avaient aussi accès à ce changement que représente le Nouveau Testament, puisqu'ils avaient l'évangile vivant en la personne de Jésus. Et pourtant, là, vous voyez, il dit, si vous saviez ce que signifie, c'est-à-dire que vous n'avez pas compris, on pourrait dire, mais surtout, vous n'avez pas le sens exact, le bon message fait par celui qui est fait par l'esprit. On est très loin, encore une fois, d'une connaissance intellectuelle. C'est pour ça que quand on voit les prophéties sur Jésus, par exemple, Ésaïe 11:2, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Connaissance et crainte de l'Éternel. Cet esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel est équivalent à marcher par l'esprit, en fait. Et comme vous connaissez le podcast et nos formations, en fait, on revient toujours à marcher par l'esprit parce que c'est le modèle de Jésus, ce qu'il enseigne, et c'est vrai. En Matthieu 22, 29, Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » Voilà. Donc c'est présenté en disant, « Vous faites, voilà, vous vous trompez. Hein, » puisque Jésus dit, « Vous êtes dans l'erreur. » Et donc, encore une fois, c'est une compréhension intellectuelle, et là, à un moment, vous vous trompez. Vous n'avez pas la bonne compréhension intellectuelle. Parce que vous ne connaissez pas les Écritures ni la puissance de Dieu, parce que vous ne connaissez pas la Bible. Il faut étudier la Bible pour... Mais non. Le problème aussi, c'est que la traduction a été faussée pour passer dans cette doctrine. Ils ne se trompent pas parce qu'ils n'ont pas assez étudié la Torah. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que, en fait, Jésus ne dit pas « vous êtes dans l'erreur ». Quand on reprend le texte grec, on s'aperçoit que c'est un autre verbe qui est « planao », dont le premier sens, c'est « vous êtes égaré ». Et là, ça a tout un sens. Dans un premier cas, vous vous trompez intellectuellement, et c'est ce qu'on dit tout le temps en Église, hein, ils sont dans l'erreur, dans le sens, quoi. Ils n'ont pas compris. Ça va beaucoup plus loin que ça, et ça va vraiment être le sujet de ce podcast. C'est-à-dire qu'ils sont dans un autre chemin spirituel. Vous vous êtes égaré, exactement comme la repentance. La repentance, tu dois te repentir, alors que le terme grec pour repentance, ça veut dire simplement changer d'esprit. Alors, tu dois changer d'esprit, ça ne veut plus rien dire du coup. Donc, on voit que tout est une question d'esprit, et on va développer cet aspect-là tellement important pour nous. Donc, dans le sens exact, vous vous êtes égaré, vous n'êtes pas sur le chemin de l'esprit, Parce que vous ne. Eido, même chose, c'est pas vraiment connaître, c'est plus percevoir. Percevoir la puissance, c'est-à-dire la vivre véritablement, et percevoir aussi le sens des Écritures. Donc, vous voyez, la difficulté aussi, c'est qu'il y a beaucoup de versets qui sont changés par les traducteurs pour aller dans le sens, toujours pareil, de leur pensée, parce que ça va être le thème de ce podcast, qui est une pensée humaine et non pas de Dieu. Donc, c'est déformé par rapport à ça. Remarquez que le terme de puissance, dynamis, on le voit souvent associé au miracle aussi, c'est bien l'esprit. Exemple aussi concret, Luc 6, 18, 19, « Et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une puissance, dynamis, sortait de lui et les guérissait tous. » Ce qui veut dire que quand on reprend ce que signifie « je veux la miséricorde et non le sacrifice », comme il a été montré dans le précédent podcast, ça veut surtout dire marcher par l'esprit, qui est un thème récurrent chez Jésus et chez Paul. Et tout le temps chez nous, bien sûr. Matthieu 5, versets 7 à 9, « Heureux les miséricordieux, encore la miséricorde, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui sont purs de cœur, parce qu'ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. » C'est-à-dire que heureux ceux qui marchent par l'esprit. Voilà ce que nous enseigne Jésus. Et non pas le sacrifice, et non pas ceux qui pratiquent le jeûne, la prière et le culte dominical. Pourtant, on est dans une église qui pratique le jeûne, la prière et le culte dominical, les sacrifices, en fait. Alors que l'enseignement est inverse. Je veux la miséricorde et non le sacrifice, c'est-à-dire marcher par l'esprit pour être comme Dieu. Voilà, c'est tout l'enseignement de Jésus, et tel qu'il peut être résumé. Et tout l'inverse de ce qu'on voit. Faites des sacrifices, faites des rituels. Au lieu de connaître, marcher par l'esprit, parce qu'on connaît l'esprit, parce qu'on voilà, on vit ça, hein, eh bien, ça se transforme à avoir une connaissance intellectuelle de la Bible, ce qui n'a rien à voir, ce qui en soi ne donne pas de fruits, véritablement. Alors, vraiment, c'est le sujet, parce que, en fait, là, vous voyez un affrontement, quand je vous dis qu'ils ont changé, effectivement, les traductions selon leur doctrine, donc selon leur pensée. Donc, en fait, c'est selon un autre esprit, puisque ce n'est pas le sens original. Et c'est ça l'axe important. Ils ont une autre logique spirituelle. C'est pour ça que j'appelle ça une autre vérité dans le précédent podcast. Ce n'est pas juste une erreur de jugement. Exactement comme on voit de ce que dit Jésus aux Juifs. Ce n'est pas juste une erreur de jugement. C'est une autre voie, une autre logique spirituelle, et on va être confronté en permanence à des personnes qui sont comme ça, comme Jésus l'était à l'époque. En Matthieu 12, versets 38 à 39, il est dit « Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens lui répondirent, disant « Maître, nous voulons voir un signe de toi ». Mais lui répondant leur dit, « Une génération méchante et adultère recherche un signe, mais il ne leur sera pas donné de signe, si ce n'est le signe de Jonas le prophète. » On reprend cette partie-là du précédent podcast. Donc, dans ce passage-là, ils ne sont pas destinés à comprendre. Et c'est aussi, même si ce n'est pas facile à vivre, mais c'est pourtant l'enseignement, c'est aussi une des facettes de la miséricorde de Dieu, toute l'élection par l'Esprit, et ceux qui ne sont pas destinés, ils ne sont pas destinés du tout, en fait. Donc, c'est pour vous montrer que la pensée de Dieu est tellement différente de ce qu'on entend d'habitude, ou de la pensée humaine. La miséricorde est souvent associée dans le Nouveau Testament au fait que Dieu bloque certaines personnes. C'est vrai que c'est pas la logique humaine, parce que miséricorde, c'est faire du bien. Mais le plan de Dieu, véritablement, comprend un grand nombre de facettes par rapport à ça. Et je suis là justement pour, à travers les podcasts, vous faire rentrer dans cette pensée de Dieu qui est complexe. L'amour de Dieu est tout autant. D'envoyer un antéchrist pour perdre ceux qui sont fragiles, entre guillemets, pour que préserver les quelques-uns qui sont dans le bon esprit de vérité. Vous voyez, pourtant, c'est bien Dieu, qui est amour, qui envoie cet antéchrist, qui est là pour perdre, égarer. Il y a bien une sélection, et cette sélection est aussi l'amour de Dieu. Vous voyez la complexité de la miséricorde, mais on approfondira ça encore dans un autre podcast, parce qu'il y a plein de facettes de cette miséricorde. Donc, ils ne sont pas destinés à comprendre, mais il peut y avoir quelques exceptions. Après tout, les disciples sont issus de Juifs, et Jésus est Juif. Et on voit une exception comme Nicodème, par exemple. C'est intéressant, l'exemple de Nicodème, parce que Jean 3, verset 1 à 2, il est dit « Or, il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, qui était un chef des Juifs. Il vint vers Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Donc, on voit que Nicodème n'a pas entendu l'enseignement de Jésus. Il a entendu parler des miracles, comme beaucoup, par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans la foule, en fait, quand Jésus, entre guillemets, prêchait. Et prêcher, attention, quand on dit que Jésus prêche, en fait, il annonce le royaume de Dieu. Là aussi, c'est une déformation en termes de traduction. C'est pas comme le pasteur dans une église, ça n'a rien à voir avec ça. Il montrait, il annonçait le royaume de Dieu par les miracles et les guérisons, tout le temps. Beaucoup plus que il donnait des principes spirituels. On est dans deux registres totalement différents. Mais Nicodème n'était pas dans la foule. Donc, déjà, c'est intéressant de voir que ce Nicodème n'était pas concerné par l'enseignement de Jésus directement. C'est pour ça qu'il va le voir par rapport à ça. Et on retrouve ce modèle dans les évangiles aussi. Et on va approfondir dans d'autres podcasts, comme on l'a vu précédemment, donc dans un grand nombre de passages. C'est pas parce que Jésus annonce à la foule qu'il se passe parce que quoi que ce soit. Il y a aussi un côté prophétique d'annoncer le royaume de Dieu. Nous regardons ça, mais en fait, il n'y a pas vraiment de fruit dans ceux qui écoutent. C'est pour ça que le modèle « va prêcher la foule et ça va bien se passer » n'est pas le modèle, en fait, du Nouveau Testament. On va continuer sur Matthieu. Matthieu 15, versets 6 à 15. « Et vous avez annulé la loi de Dieu à cause de vos traditions hypocrites, donc traditions spirituelles également, mais évidemment charnelles. Esaïe a bien prophétisé de vous en disant, « Ce peuple m'odore de ses lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi, leur cœur est fort éloigné de moi. Mais c'est en vain qu'ils me rendent un culte, enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. » Ce qui est toute l'histoire de l'Église. « Ce peuple m'odore de ses lèvres, tous les dimanches matins, en disant, « Jésus, je t'aime, je te donne ma vie. » Mais leur cœur est fort éloigné de moi, mais c'est en vain qu'ils me rendent un culte, enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes, et ce qu'on étudie dans ces podcasts et dans toute la formation. Et il continue, ayant appelé la foule, il leur dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, et ce qui sort de sa bouche, c'est cela ce qui souille l'homme. Alors ses disciples lui répondirent, sais-tu que les pharisiens, en entendant ces paroles, ont été scandalisés. Donc, vous voyez, les pharisiens qui avaient une autre vérité, dans le sens une autre logique spirituelle, un autre esprit, clairement, ont été extrêmement choqués, scandalisés. Ah, ça percute par rapport à ça. Et quand c'est pas le même esprit, ça percute. C'est pas juste, ils sont pas d'accord avec toi. Vous voyez, on est dans un registre autre. C'est une réaction parce que c'est pas le même esprit, en fait. Et il leur répondit, « Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée, laissée. » On voit ce blocage que Dieu fait régulièrement dans l'ensemble de la Bible. Et c'est un aspect très important dans ce qu'on fait dans le quotidien du ministère. Ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles. Et Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Voilà un autre élément qui va nous intéresser pour la suite. Pierre a bien été élu par l'Esprit, mais ça ne veut pas dire qu'il a automatiquement un discernement spirituel sur les enseignements de Jésus. Ce n'est pas automatique, ça s'apprend. C'est progressif par rapport à ça. Parce que régulièrement, quand il y avait une parabole, les disciples demandaient « Mais explique-nous, on n'a pas compris. » Bon. Donc, vous voyez, faites bien la différence entre élection par l'Esprit et le discernement, ben voilà, j'ai tout de suite compris le bon enseignement. Ce sont deux choses différentes, ça s'apprend. Et remarquez que Jésus leur dit, laissez-les. Hein. et non pas aller leur parler pour les convaincre avec un beau discours par la raison. Et pourtant, ça, c'est ce qu'on entend partout. Et c'est faux. Donc, exemple, c'est vraiment d'une autre logique spirituelle, d'une autre vérité, d'un autre esprit. Pourquoi je dis un autre esprit? Ils veulent tuer Jésus. C'est-à-dire que, puisqu'on est, c'est un autre esprit, il y a une opposition très forte, les pharisiens veulent piéger, veulent tuer, et régulièrement on le voit qui fuit effectivement ça, parce qu'il y a un danger, d'accord? Mais ce n'est pas une erreur de jugement. Et voilà la difficulté, c'est pour ça qu'ils ont rajouté dans le texte de Romains 1, 20, 21, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, considérés dans ses ouvrages, afin qu'ils soient inexcusables. Donc c'est comme s'ils faisaient un choix intellectuel de ne pas croire, alors qu'en fait ils sont guidés par un autre esprit. Donc c'est pour ça que ce texte n'est pas bon. Ils ne sont pas inexcusables, ils sont dans un autre esprit. D'ailleurs, les perfections invisibles de Dieu, si on veut reprendre le texte, même s'il a été rajouté au IIe siècle et qu'il n'est pas dans le passage d'origine, ben, on remonte dans les temps préhistoriques, dans l'ensemble de la planète. Il y avait une seule spiritualité, quel que soit le pays, quel que soit le continent même, le chamanisme, c'est-à-dire l'évocation des esprits, partout. Et il y a énormément de découvertes scientifiques de nos jours où, à chaque fois qu'ils ont une tombe, il y a des hommes, mais aussi beaucoup de femmes, qui sont en fait chamanes par rapport à ça. Le chamanisme, c'est quoi? Il voit la création, en fait. Hein, il voit bien ça, la création. Mais qu'est-ce qui les intéresse dans la création? La puissance. C'est pour ça qu'ils évoquent les esprits, bah, des ours pour avoir la puissance de l'ours, des panthères pour avoir la puissance de la panthère. Ils sont dans cette logique-là. C'est pas qu'ils ne voient pas la création. C'est qu'ils cherchent la puissance, c'est une spiritualité, une autre vérité qui colle exactement à leurs aspirations. J'en ai rien à faire de Dieu, on pourrait dire, si c'est pas lui qui m'aide à chasser. Donc je vais évoquer les esprits pour qu'il me donne la puissance de l'ours pour que je vais avoir plus de viande. C'est l'évangile de prospérité, ça démarrait déjà là. Bon. Donc, on va prendre un autre exemple d'une autre logique spirituelle, celle des Juifs. Le fameux passage où le pardon, c'est 3 fois, 7 fois ou 77 fois. Bon, ou 7 fois, 77 fois. Parce qu'en fait, quand Pierre dit « mais faut-il pardonner 7 fois ?» c'est, il va même plus loin, en fait, que la doctrine juive de l'époque où, en fait, il était enseigné qu'on doit pardonner 3 fois. Donc, j'ai fait des recherches là-dessus et c'était très compliqué parce que se plonger dans la logique juive, il y en a des pages, des pages et des pages, des pages. Ils font ça toute la journée. Hein. Donc, j'ai du mal à trouver quelque chose de simple. Alors, voilà un petit résumé. Il parle de Yom Kippour, le jour du pardon. Le jour du pardon, je vous rappelle que les juifs, dans une seule journée, ils font rien et puis Dieu pardonne. Voilà. Et ils expliquent, bien que les fautes envers Dieu s'effacent en jeûnant et en priant selon les préceptes de Yom Kippour. Ce qui est intéressant quand on lit ces enseignements juifs, on s'aperçoit, bah tiens, c'est comme dans les églises. Bah oui, les églises ont copié en fait énormément de principes juifs qui n'ont plus cours dans le Nouveau Testament. Donc on doit l'apaiser en présentant des excuses accompagnées, etc., etc. Le consentement d'autrui nécessaire pour le pardon, machin, machin. Selon la tradition juive, on est libéré d'une obligation après avoir sincèrement sollicité 3 fois le pardon de l'offensé selon Yoma 87a, le Talmud donc. Qu'il s'apaise ou non. C'est pour ça que 3 fois on arrête. Pouk. Voilà pourquoi Pierre pensait faire mieux en parlant de 7. Et Jésus dit non, t'es loin du compte par rapport à ça. Donc j'ai même trouvé alors, des illustrations. J'avoue que c'est très complexe parce que dans le Talmud, il cite un rabbi, alors, il y a un rabbi machin qui avait quelque chose de la part de rabbi truc contre lui, il alla s'installer sur le porche de rabbi truc, quand la servante a versé l'eau, le flux arriva sur sa tête, et j'ai dit, j'étais rendu semblable à des détritus. Donc la servante sort sur le perron et jette le contenu des pots de chambre, si vous voulez, et il prend ça sur la tête, il dit, oh, j'étais rendu semblable à des détritus, et il dit sur lui-même des détritus, il élèvera le milieu, il élèvera Yahvé, il élèvera le misérable, bref, on passe, il y en a des pages. Donc, on voit que c'est une logique spirituelle. On ne peut pas dire juste qu'ils se trompent, ils sont dans une autre vérité par rapport à ça. Et tout est dans cette vérité-là qui est un mensonge, on est d'accord, mais pour eux c'est une vérité, tout est cohérent. Bon, on va passer à l'application pratique, on va continuer à étudier là ce qui passe sur le podcast EMC TV. Pourquoi là je peux le citer, tout simplement parce que tout le monde le connaît. Hein. Donc c'est pas grave si je montre ça. En général, je ne nomme ni les personnes, ni mais bon, là comme tout le monde le connaît, c'est franchement pas grave. Et puis ça vous permet également de comprendre aussi ce qui se passe, c'est ça qui est intéressant. Donc ça m'a beaucoup intéressé parce qu'ils ont parlé de l'onction. Pour moi, l'onction c'est un peu mystérieux. D'accord, l'enseignement sur l'onction. Pourquoi c'est un peu mystérieux? Parce que dans le Nouveau Testament, on n'en parle qu'une fois de l'onction, en 1 Jean 2, versets 18 à 21. « Petit enfant, c'est la dernière heure, et comme vous avez entendu dire qu'un antéchrist vient, aussi y a-t-il maintenant beaucoup d'antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure, ils sont sortis du milieu de nous, mais n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. » Mais c'est afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Et vous, vous avez une onction, voilà. Dans le Nouveau Testament, c'est le passage qui en parle, de la part du Saint, et vous savez toutes choses. Ah, donc c'est l'Esprit de vérité. Je vous ai écrit non pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et puisque vous savez que nul mensonge ne provient de la vérité. Donc, l'onction, dans le Nouveau Testament, une seule référence, puisque c'est en fait, c'est plus utilisé, ça veut dire juste l'Esprit de vérité, l'enseignement de Jésus. Hein. Je vous envoie l'Esprit de vérité. Bon. Remarquez aussi, parce que ça va nous servir un peu plus loin, il parle de beaucoup d'antéchrist, parce que ce sont l'antéchrist est donc un homme. Un homme qui est conduit par l'esprit mauvais. C'est pour ça que c'est l'inverse de Jésus. Homme conduit par l'esprit de Dieu. Antéchrist. D'accord ? Il est aussi appelé menteur, séducteur, faux prophète. Hein ? Homme donc qui parle sous l'inspiration d'un esprit mauvais. Mais c'est un homme. En Apocalypse, on voit qu'il monte encore d'un cran, mais ça reste un homme. Puisqu'en Apocalypse 13, 6, 7, et elle ouvrit la bouche en blasphème contre Dieu pour blasphémer son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné pouvoir sur toute tribu et peuple et langue en nation, etc., etc. C'est un homme qui parle, même s'il est complètement conduit par l'esprit mauvais. L'antéchrist, donc l'inverse de Jésus, qui est complètement conduit par l'Esprit de Dieu. Revenons à cette onction, parce qu'il a démarré tout de suite dans quelque chose que j'avais entendu parler, mais je connaissais mal, la fameuse onction de multiplication. Donc, c'est quoi ce truc? Et en tapant sur Internet, bah, je trouve tout de suite, hein, bien sûr, voilà ce qui est dit dans certains mouvements, transfert de l'onction de multiplication aux partenaires, ceux qui financent. Donc s'ils financent, ils ont eux-mêmes cette onction de multiplication. Bien-aimés, rappelez-vous ce qu'on a dit là-dessus, tout ne dépend pas de ce que nous possédons, mais plutôt de qui les possède. Sachez que ce principe du royaume, ça, le principe du royaume, ils adorent, c'est-à-dire une sorte de nouveau principe fait d'un mélange d'Ancien et Nouveau Testament bien détourné du message d'origine. C'est ça le principe du royaume. La multiplication n'a lieu que quand on arrive à donner le peu qu'on a. Donc, il explique que, puisque on voit, en gros, la multiplication des pains, Jésus fait la multiplication des pains avec les quelques pains que lui donne le petit orphelin. Bon. Donc, c'est ça, l'onction de multiplication. Donnez le peu que vous avez à Jésus, donc à moi, voilà, toujours le même principe, à l'Église, à moi, donc, voilà. Et puis vous verrez, tout sera multiplié et tu feras fortune dans tes affaires, et voilà, et voilà. Évidemment, c'est pas l'application du tout, hein. Puisque la multiplication des pains, on sait en fait le même enseignement, mais démontré cette fois-ci que la bonne terre, hein, dans la parabole du semeur, il y a effectivement par l'esprit une multiplication, qui ne veut pas forcément dire une multitude, mais une multiplication, qu'on retrouve effectivement avec Paul, mais là aussi on va décortiquer dans un autre podcast, parce que justement, ce qui semble être une multiplication dans un premier temps, en fait, donne très peu de fruits dans un deuxième temps. Donc, il y a aussi tout un message par rapport à ça. Voilà. Donc, on continue sur le texte. Alors là, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet, simplement, sur ça. Donc, Dieu cherche des gens ordinaires qui sont prêts à s'offrir à lui. C'est ce que nous offrons à Jésus, qui a le potentiel d'être multiplié. D'accord ? C'est ce que nous remettons, qu'il peut bénir et multiplier. Donc, bon, en résumé, si vous leur envoyez 100 dollars, ça va se multiplier. Après, alors là aussi, il y a une phrase qui semble être comme ça dans le Nouveau Testament, mais il sort complètement, il dévie complètement ce passage-là. Donc là, il nous parle de quelqu'un, en fait, j'avais déjà repéré sur Internet, ça m'avait intéressé, c'est le patriarche apôtre, machin, machin, je n'ai pas la peine d'avoir son nom. Pourquoi ça m'a intéressé? Parce que j'ai vu cette foule, justement. Là, on voyait une foule, il fait des méga-churches de 50 000 personnes, et quand il arrive, c'est extraordinaire, il arrive dans des Rolls, avec, enfin, dans des très grosses voitures, c'est pas forcément des Rolls, mais escorté par la police, tellement c'est un homme important, enfin, c'est un truc hallucinant. Et alors, les croisades, voilà un homme de multiplication, d'onction de multiplication, hein, les signes, les prodiges, et des guérisons, tumeurs, cancers, sida, des paralytiques marchent, des aveugles voient, et alors, voilà ce qu'il dit. Même des enfants nés sans sexe recouvrent miraculeusement leur sexe, un truc un peu bizarre quand même. Des morts ressuscitent, des poissons, là ça continue, c'est le texte hein, du site. Des poissons, des lézards, des serpents, des cafards, des souris, des objets, etc. Alors, moi j'ai vu les vidéos, et ce qui m'avait intéressé à l'époque, c'est ce gars avec l'onction de multiplication, machin, machin. En fait, quand il montrait sa puissance spirituelle, on voyait des images, mais de sorcellerie, clairement. On voyait des sortes d'insectes qui sortaient de blessures, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le bon esprit, ce truc? C'est pour ça qu'il dit tout ça. Et je suis allé voir la fameuse Le mort qui ressuscite, et la vidéo. Alors, la vidéo est habilement tournée, quand même, parce qu'on voit une femme qui se précipite vers l'homme de Dieu, toujours pareil. Homme de Dieu, en pleurant, sauf qu'elle cache son enfant dans les bras, on le voit absolument pas. Et les caméras sont derrière, alors qu'elles sont toujours, en fait, vers l'homme de Dieu. Et elle s'approche, il s'approche, l'homme de Dieu, entre guillemets, pose sa main, oh, ne crains pas, femme, Dieu va agir, machin, machin. Et donc, là, la femme ouvre les bras, et les caméras arrivent pour montrer que l'enfant bouge. Oui, mais il bougeait avant aussi, sauf qu'on ne le voyait pas. Ça, c'est des techniques, effectivement, qui ont été montrées avec TB Joshua. Ils disent à la personne, précipite-toi, pleure, mets-toi à genoux, dis, homme de Dieu, j'ai besoin de toi, homme de Dieu, j'ai besoin de toi, et ça fera un gros effet à l'écran. Bon, honnêtement, je n'ai pas été emballé, mais c'est logique. Parce que c'est une autre logique spirituelle, un autre esprit. Et voilà ce que dit voilà ce gars-là, le patriarche apôtre. C'est pas le dernier déjà. Après ce riche enseignement, il y a conduit tous les fidèles, ça n'existe pas dans le Nouveau Testament, à un moment fort de prière et de déclaration pour une délivrance totale, recommandant le déversement de gouttes d'huile sur la tête et dans chaque paume de main, rameau à la main, sourire aux lèvres. Le peuple de Dieu, c'est l'Ancien Testament ça, a reçu de loin de Dieu, la fameuse onction, porteur de cette grande dispensation des bénédictions prophétiques. Alors effectivement, là, je vous parle du podcast EMC TV, parce que je l'avais pratiqué pendant un moment, d'ailleurs, ces enseignements-là. Ils parlent d'une audience de 233 millions de personnes, quand même. Hein. Bon. Donc, la foule, elle est là, l'onction de multiplication et la foule, elle est là. Qu'est-ce qui m'a intéressé comme enseignement? Ça s'appelle les pièges à éviter quand on est loin. Voilà ce que dit le gars. Alors, ce qui est intéressant dans les podcasts, c'est qu'on a le texte aussi. Donc, ça m'a permis d'affiner tout ce qu'il disait. Il commence en disant « Beaucoup d'oints sont tombés dans l'orgueil, fierté spirituelle. » Et là, il cite 2 Chroniques 26, 16 « Et lorsqu'il » donc, il parle de Ozias, il n'est pas super connu, mais Ozias « fut devenu puissant, son cœur s'éleva jusqu'à le rendre criminel, il fut infidèle à l'Éternel, son Dieu. » Et il entra dans le temple de l'Éternel pour faire fumer l'encens sur l'autel des parfums. Bon, donc, c'est qui Oséas? Est-ce qu'il a été oint? Comment? Pourquoi? Bon, en fait, il faut continuer le passage pour comprendre un petit peu. Oséas était un roi de l'époque, le roi de Jérusalem, qui s'occupait de la défense de Jérusalem, qui effectivement est un roi qui, dans un premier temps, suivait Dieu, et puis s'occupait de la défense de Jérusalem, des murs, des murailles, avec plein d'armes de guerre, des arcs, machin, machin. Bon. Puis là, la faute d'Ozias, c'est de vouloir remplacer les sacrificateurs. Donc, il rentre directement dans le temple pour faire lui-même le sacrifice. Azaria, le sacrificateur, entre après lui avec 80 sacrificateurs. Il s'opposèrent au roi Ozias et dit, c'est pas à toi de faire fumer l'encens pour l'Éternel, cela appartient au sacrificateur. Machin, machin. Comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Voilà. Donc c'est quand même très pointu parce que, on va le voir, c'est le seul cas d'orgueil de quelqu'un qui est rentré dans un ministère mais qu'en est pas vraiment un, puisque l'onction des rois dans l'Ancien Testament n'a rien à voir en fait avec le ministère dans le Nouveau Testament, évidemment. C'est un autre modèle par rapport à ça. Donc c'est quoi le message d'Ozias? Il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas d'application pratique dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que si, alors si tu es roi de Jérusalem dans l'Ancien Testament, que tu es en train d'armer, de mettre des machines de guerre sur toutes les murailles de Jérusalem, le conseil qu'on peut te donner, c'est ne remplace pas les sacrificateurs, tu vas choper la lèpre, pardon. Autrement dit, ça n'intéresse personne. Bon. Donc on va revenir là-dessus, parce que là, il utilise un principe soi-disant biblique qui n'a pas d'application pratique, en fait. Et il continue en disant, déjà, l'onction n'est pas l'approbation éternelle. Je comprends pas. En fait, il utilise un passage dans le Nouveau Testament qui devrait nous édifier. Voilà ce qu'il dit. Donc, Matthieu 7, verset 21-23, vous connaissez ce passage, ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront, alors hop, plusieurs, donc toujours pareil, quand il y a un problème, ils sont très peu, sinon c'est la foule. Sauf que c'est faux, parce que polus, en fait, en grec, ça veut dire beaucoup. Donc, Jésus ne dit pas, il y en a quelques-uns qui vont se détourner, il dit beaucoup. Beaucoup d'antéchrist, beaucoup, voilà. Me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait plusieurs miracles, et je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi qui faites l'iniquité. Donc je vous ai jamais connu. Vous faites l'iniquité, donc le mal, et il dit aussi, ce n'est pas celui qui entrera dans le royaume de Dieu, mais ce n'est pas ceux qui feront Seigneur, Seigneur, mais celui qui fera la volonté de mon Père dans les cieux. Et il dit, on voit que Dieu les a utilisés pour leurs miracles et leurs guérisons. C'est pas du tout ce que dit Jésus. Donc on peut être un outil de Dieu sans l'approbation. Voilà, bon, donc un passage super simple à comprendre et fondamental, hein, en disant attention, c'est pas parce que tu vois des miracles comme le prophète apôtre, machin truc, que c'est de Dieu. D'accord? Il le détourne en disant que si, en fait, Dieu l'a utilisé quand même. Parce que dans sa tête, dans sa logique spirituelle, dans sa vérité à lui, tout ça, c'est forcément Dieu. Eh oui, forcément, logique. Donc, on peut être un outil de Dieu, oint de Dieu, sans l'approbation. Sauf qu'eux, ils ne sont pas oint de Dieu du tout, du tout. On va voir un autre exemple. Donc, il confond aussi avec le monde et les talents. Hein. Effectivement, un médecin peut avoir un talent donné par Dieu, enfin, c'est le principe d'ailleurs, un talent donné par Dieu pour te guérir sans qu'il connaisse Dieu. C'est comme le principe des magistrats. Il y en a partout. Des personnes utilisées par Dieu, le monde en est rempli. Hein. Il passe par qui il veut, hein. Par les autorités, par tout ça. Et c'est Dieu qui fait ça. Enfin, les autorités, et en particulier, effectivement, tous ceux qui ont un talent. C'est la parabole des talents. Donc, on peut tout à fait, effectivement, être un outil de Dieu. Sans ça veut dire que tu vas aller dans la Nouvelle Jérusalem, si on veut résumer la chose. Mais ce texte ne dit pas du tout ça. Il dit non, non, ils font ces choses-là par un esprit mauvais qui n'est pas de Dieu, si on veut expliquer de façon différente. C'est quoi le problème de l'enseignement sur l'orgueil? C'est impossible. Il n'y a aucun ministère pour quelqu'un qui est orgueilleux. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Dans le Nouveau Testament, on retrouve nulle part ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de. Effectivement, on peut chuter, et on a le cas dans l'Église de disciples, il y a un certain nombre de personnes qui n'arrivent pas à leur ministère par l'orgueil et chutent. Mais Une fois que Dieu t'a oint, pour utiliser l'expression, c'est qu'il sait qui tu es. Et après, tu vas pas, ah, je deviens orgueilleux. Ça n'existe pas. Avec, encore une fois, c'est pour ça qu'il va chercher un roi improbable dans l'Ancien Testament, parce que ce modèle n'existe pas. Et dans l'Église, c'est ce qu'on voit. On voit les chutes avant entrer dans le ministère, sur l'orgueil. Sinon, on peut chuter après, par la chair. Et ça, on le voit ça tout le temps dans le Nouveau Testament. D'accord ? La chair, ça veut dire, on a des pensées qui nous plaisent, mais qui sont d'un autre esprit. Bon. Parce que, pourquoi il prend ce roi improbable ? C'est pas le seul des rois à se détourner de Dieu dans l'Ancien Testament. J'en ai compté 10. Abiam, qui est son père, Amon, Joram, Ahaz, bon, etc. Je vais pas tous les faire. Et c'est quoi le reproche que Dieu leur fait ? Ils imitent la conduite des rois d'Israël selon les coutumes abominables des nations, et le reproche qui revient le plus souvent, le péché le plus grave des rois est d'imiter leur père, en fait, parce qu'ils continuent d'adorer d'autres divinités. Voilà. Il fit ce qui déplaît à Yahvé, tout comme avaient fait ses pères pour Joash, Joachim, etc., etc., etc. Donc ils sont charnels. Ça veut dire que le roi dont il parle est une totale exception. Et de toute façon, les rois qui ne font pas la volonté de Dieu, il y en a toute une liste. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune application pratique, mais ça lui permet de faire son message. Parce que le bon enseignement sur le roi, je vous l'ai cité dans un autre podcast, dans le Nouveau Testament, on nous parle de quoi ? On nous parle un peu de Salomon, et on nous parle de David. Acte 13, 22, « J'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur qui fera toutes mes volontés. » Voilà la définition. Homme selon mon cœur qui fera toutes mes volontés. Et si tu es orgueilleux, tu n'es pas homme selon le cœur de Dieu, tu ne feras pas les volontés de Dieu. C'est aussi simple que ça. Donc tu ne rentreras pas dans ton ministère. Voilà, ça c'est aussi simple que ça. Parce que l'orgueil est quelque chose de très grave. Jésus place l'orgueil comme le meurtre. On retrouve Marc 7, 22, 23, « Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme, car du dedans du cœur des hommes sort des mauvaises pensées, des fornications, des adultères, des meurtres !» Et ça continue. « L'orgueil et la folie !» Donc, l'orgueil, c'est comme le meurtre. Très grave. Tu penses que tu vas pas avoir un ministère. Par contre, c'est issu de tes pensées. Le meurtre est issu de tes pensées. Cain et Abel, bon. 2 Corinthiens 12, 7, sur l'orgueil, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut, comme il le dit, tomber dans l'orgueil? Ah ben non, Paul le dit. 2 Corinthiens 12, 7. Pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange du Satan, pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. C'est prévu par Dieu. Si tu fais par l'esprit, Dieu prévoit que tu ne tombes pas dans l'orgueil. Mais moi, c'est pareil, en fait. J'ai certaines maladies chroniques, et quand j'ai fait une prière là-dessus, j'ai tout de suite eu la réponse, comme Paul, voilà. Hein, je vais faire avec, hein, pour ne pas que je me croie pour Superman. Dieu prévoit le coup. Quand c'est vraiment le bon esprit, c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'on ne trouve pas, contrairement à ce qu'il raconte, de chute de personnes qui sont vraiment rentrées dans le ministère et qui chutent par orgueil. Pas la chair, tout le temps. Mais par l'orgueil, non. Puisque, justement, si c'est fait par l'esprit, ça veut dire que tu es dans l'humilité comme un petit enfant, et certainement pas dans l'orgueil. C'est tout le principe du disciple de Jésus, le petit enfant. Rappelons les enseignements de Jésus aux disciples qui ne sont pas encore envoyés en mission. Matthieu 18, 1, 4, les disciples s'approchèrent de Jésus et dit « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Orgueil, ils ne sont pas encore entrés dans la mission. Et ayant appelé un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et dit « En vérité, je vous dis que si vous ne convertissez, devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Quiconque donc se rendra humble comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. » Donc, avant que tu rentres dans le ministère, à toute cette préparation, si tu es dans l'orgueil, tu n'entreras jamais dans le ministère. Sois comme un petit enfant. Si tu es dans tes pensées, tu es dans le charnel et tu n'entreras jamais dans le ministère. Et Matthieu 19, 30, mais plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs derniers seront les premiers. Il y a plein d'enseignements de ça, justement pour habituer les disciples à ça, par rapport à ça. Parce que l'envoi dans la mission, c'est en Matthieu 28. Aller dans toutes les nations, etc. Matthieu 28. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de chute dans la Bible, puisque les chutes dans la Bible, deux personnes qui sont entrées dans la mission, enfin, comme je vous dis, c'est une exception, enfin, le roi de Lucide, c'est une exception totale. Les chutes les plus connues, moi j'ai tout de suite pensé à Moïse, quand il tape avec le bâton, c'est pas de l'orgueil, c'est charnel. Il fait une autre méthode et il passe beaucoup plus d'années dans le désert. J'ai tout de suite aussi pensé au roi Saul, mais le roi Saul, c'est charnel. Il a fait comme d'habitude selon ses pensées. Ah non, non, je vais me garder une partie du bétail, parce que ça m'arrange. Charnel. Donc contre ce que disait Samuel. David, la femme, charnel, pas l'orgueil. Bon. Quand Dieu parle de l'orgueil dans l'Ancien Testament, voilà ce qu'il dit. Jérémie 13, versets 9 à 10. Ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et le grand orgueil de Jérusalem, ce peuple mauvais qui refuse d'écouter mes paroles, qui marche suivant l'endurcissement de son cœur et court après d'autres dieux pour les servir et les adorer. Il sera comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Dieu va pas envoyer une onction d'esprit à quelqu'un qui est bon à rien. D'accord? Quand il parle d'orgueil dans ce passage, peuple mauvais qui refuse d'écouter mes paroles et qui marche selon l'endurcissement de son cœur et court après d'autres dieux pour les servir et les adorer. C'est pas la chair, donc. Vous voyez? Donc, l'onction qui conduit à l'orgueil n'est pas de Dieu. Impossible. C'est donc une autre logique spirituelle, une autre vérité, un autre esprit, et c'est parfaitement connu. Matthieu 4, 8, 9, le diable le transporte encore sur la montagne fort haute et lui montre tous les royaumes du monde et de leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si te prosternant tu m'adores. Voilà. C'est ça, l'onction de multiplication qu'ils expliquent. C'est ça, c'est ce truc-là. Cette onction-là n'est pas de Dieu. Donc, il nous parle à un moment de renouvellement de l'onction. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Il nous parle aussi, c'est comme on renouvelle l'huile. Ouais, bah comme une voiture, donc, je comprends pas. Donc, il explique, parce que pour renouveler l'onction, il faut se comporter d'une certaine façon. Donc, il y a besoin d'un gars pour leur dire, comporte-toi comme ça. Donc, c'est pas l'esprit de Dieu. Puisque justement, par définition, tu marches par l'esprit. T'as pas besoin d'un gars pour te dire, ah, faut absolument que tu te comportes comme ça. Il y a des enseignements qui t'aident à, mais d'abord, t'es guidé par l'esprit qui te conduit à ça. Et c'est quoi se comporter d'une certaine façon? Tu fais des jeûnes, des prières, des exercices spirituels. Donc, boum, totalement contre l'enseignement, la miséricorde de Dieu et non pas le sacrifice. Fais des rituels. Et il cite le passage, Ésaïe 40, 31, que mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Donc, voilà, renouvelle, vous voyez, renouvelle. Donc, le renouvellement de l'onction, c'est très important de se reposer. Complètement faux. Pourquoi? Le texte dit l'inverse. T'es pas fatigué quand tu comptes sur Dieu. T'es épuisé, t'as besoin de repos quand tu comptes sur tes propres forces. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. C'est un point qui est très important. Moi, je suis jamais surmené. Je suis régulièrement fatigué. Régulièrement stressé, il y a des attaques, il y a des personnes qui chutent, tout ça c'est très stressant, comment je fais avec peu d'argent, etc. Bon, il y a plein de choses qui me fatiguent, en particulier effectivement les personnes qui ont des attaques, ou les personnes qui chutent, les personnes qui ont des difficultés, je vis ça avec eux, c'est très fatigant. Mais je ne suis jamais surmené parce que je fais ce que Dieu me demande. Et Dieu ne va pas m'envoyer une épreuve que je ne puisse pas traverser. Or, dans les mouvements dans lesquels j'étais, il disait tout le temps, le fléau des pasteurs, c'est le surmenage. Ah ben non, impossible. Ça veut dire qu'ils font par la chair, par leur pensée. Ils arrivent dans une église de 100 personnes, ils disent, je vais m'occuper de 100 personnes. Ah bon, ce sont des disciples. Dieu me les a donnés. Ah bon, t'es sûr? Tu les connais même pas au niveau spirituel. Tu devrais le faire comme Jésus, voir leur cœur. Tu sais pas le faire. Bon, je dois faire un culte, t'es sûr? Jésus fait pas ça. Une prédication, réfléchir à une prédication, Jésus fait pas ça non plus. Bon, ce qu'ils font, c'est selon la chair, un autre esprit donc, ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc ils sont surmenés. Surmenage, impossible. Et alors, il termine par une prière qui m'a vraiment intéressé. Esprit de Dieu, réveille les tueurs de géants, que ce que tu touches se multiplie pour qu'ils se distinguent. Je commande depuis le ciel, ça répète plusieurs fois, je commande depuis le ciel. que Dieu t'envoie un Goliath pour que tu manifestes ton onction au nom de Jésus. C'est effrayant. Et il termine par nom de Jésus, parce que, quand même. C'est totalement effrayant, parce que donc Dieu a complètement oublié de t'envoyer une épreuve. Il faut que ce soit le gars qui t'envoie un géant. Sinon, il a oublié Dieu. Il ne peut pas penser à tout. Hein, je rappelle que ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a comme modèle de souffrance les prophètes. C'est-à-dire qu'on a tout le temps des épreuves. L'adversaire et Dieu aussi, pour justement nous purifier par rapport à ça. Donc Dieu a oublié le gars, heureusement que le gars est là pour envoyer un Goliath, il va être content. Imaginez ce même gars, ils disent tout le temps qu'il est sauvé, dans la Nouvelle Jérusalem en train de juger les nations, selon ses pensées. Donc, c'est-à-dire selon ses pensées, selon un autre esprit, même s'il écoute bien un esprit, mais qui n'est pas l'esprit de Dieu. Bah, il va faire comme Trump, en fait. Il va dire, ah, ce pays-là, je vais l'annexer. Ce pays-là, ce pays-là, il pratique l'avortement. Ah, oh, je vais leur mettre des amendes, etc. Vous voyez le carnage? Vous comprenez la miséricorde de Dieu de bloquer ce type de personnes. Hein, ils ne sont pas destinés à, du tout. Hein. Et on va faire un deuxième enseignement. On va terminer avec celui-là également. Alors, effectivement, on va aller un petit peu plus dans le temps que les autres podcasts parce que c'est un sujet central qui va beaucoup vous aider dans votre quotidien. L'autre enseignement qui m'a intéressé, c'est comment exercer le don du discernement des esprits. Ah bah, oui. Comment tu vas décrire ça? Voilà. Donc, il commence avec Matthieu 16, versets 23 à 25. « Mais lui, s'étant tourné, dit à Pierre, va arrière de moi, Satan, que tu mets en scandale, parce que tu ne penses pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un peut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Bah, sauver sa vie la perdra, si tu fais par la chair, tu meurs, et si pour écouter l'esprit, il faut être comme petit enfant, tu renonces à ta vie. Voilà. Enseignement de base. Alors voilà ce qu'il dit. Il ne lui dit pas que c'est un esprit mauvais qui parle en lui. Non. Ah bah si, c'est ce qu'il dit. Alors, mais moi, Satan. Hein, on recommence. Tu ne penses pas les choses qui sont de Dieu. Donc, tes pensées sont des pensées charnelles. Et tu passes le message de Satan parce qu'il dit, arrière de moi, Satan. Il ne dit pas, attention, là, ce que tu penses, pose-toi la question de savoir s'il n'y a pas le Satan derrière. Non, arrière de moi, Satan. Parce que c'est Satan qui parle. Aussi simplement que ça. Et il ne dit pas ça. Il ne lui dit pas que c'est un esprit mauvais qui parle en lui. Non ! Il lui fait sentir que c'est l'angle de vue des hommes, et derrière cette vision des choses humaines, il y a Satan. Ah non ! Que dit le Nouveau Testament là-dessus ? Matthieu 12, 30. Jésus donc. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Alors, peu importe, c'est un homme qui n'est pas avec moi, donc qui fait selon ses pensées, donc qui fait selon le prince du mal qui est dans le monde, s'oppose à Dieu. Point. Pour ça qu'il faut mourir à soi-même. D'accord ? On prend un autre exemple. Colossiens 2, 18. Que personne ne vous enlève à son gré le prix de la course sous prétexte d'humilité et par un culte des anges, pénétrant dans des choses qu'il n'a pas vues, étant follement enflé par ses pensées charnelles. Donc, toujours les pensées charnelles et l'homme vous empêchent de rentrer dans votre destinée, vous enlève à son gré le prix de la course. D'accord ? C'est-à-dire que le message qui passe est le message de Satan. Aussi simplement ça, qui passe par lui, parce qu'il fait selon ses pensées. D'accord ? Et il dit, l'Église doit reconnaître qui parle derrière mes frères. C'est faux. Qui parle à travers, comme le montrent ces passages. À travers. Comme la prédication, l'enseignement qui détourne effectivement de l'esprit de Dieu pour avoir un autre esprit, c'est pas qu'à Satan derrière, c'est qu'il fait selon ses pensées, selon donc un autre esprit, aussi simplement que ça, d'accord ? Et là, il parle d'un autre passage, acte 16, versets 16 à 20, Or, il arriva, comme nous allions au lieu de prière, qu'une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, apportait un grand profit à ses maîtres, donc ça marchait, on va revenir à ça, nous rencontra, elle nous suivit, Paul et nous, et criait, disant, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Or, elle fit cela pendant plusieurs jours, mais Paul, en étant importuné, se retourna et dit à l'esprit, « Je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Donc, remarquez que cette femme... Ça marche très bien, puisque ses maîtres, justement, gagnaient beaucoup d'argent avec ses divinations, l'esprit de Python. D'accord ? Or, il a commencé l'onction en expliquant que... Et l'orgueil, justement, en disant, bah, oui, mais même si tu dis à plein de monde tes prophéties qui sont justes, tu ne dois pas t'orgueillir. Sauf que, là, rappelez-vous, il a confondu... Il a détourné, en fait, ceux qui font des miracles en disant qu'ils sont utilisés par Dieu. Donc, selon ce principe-là, ces divinations qui sont justes, et il y en a beaucoup, sur un grand nombre, bah, ça vient forcément de Dieu. Dieu l'a utilisé. Ah bah non, pas Dieu. Bon, vous voyez comment ça détourne tout, hein, par rapport à ça. Donc, l'esprit parle à travers, et c'est vrai, ce sont vraiment des serviteurs de Dieu qui sont là pour annoncer la voie du salut. Mais... Et ça va être tout le temps. Il y a des choses qui sont vraies, utilisées pour des choses qui sont fausses. Exactement comme la multiplication des pains. Jésus multiplie bien les pains, mais ça ne veut pas dire que tu seras riche dans ton commerce, si tu donnes de l'argent ou à l'apôtre patriarche. Évidemment, l'esprit mauvais va tout le temps dire des choses vraies pour conduire à des choses fausses. Exactement comme tous ces enseignements. Tout n'est pas faux, il y a toujours un mélange. C'est ce mélange qui détourne. C'est pour ça que c'est difficile à discerner, justement. Parce qu'il y a des choses qui sont vraies et vous conduisent dans un sens qui plaît à vos pensées. Évidemment, ça plaît aux pensées de dire ah, « Si je donne de l'argent à ce patriarche apôtre, je vais être riche. » Ça plaît. Il fait selon ses pensées, donc l'adversaire. Et ça tue l'esprit de Dieu. Vous voyez le principe. J'avais justement quelqu'un qui m'a écrit en disant « Je veux étudier la parole de Dieu pour mieux réussir. » Je sais ce que ça va donner. Donc c'est un grimoire magique pour lui donner richesse et prospérité. Il a déjà entendu ça dans les églises, tout simplement. D'accord ? Et voilà ce qu'il dit. « C'est triste de voir quand c'est l'homme qui est animé par un esprit mauvais, virgule, c'est encore pire que quand c'est le diable. » Alors, mal à comprendre. En fait, il parle de possession, parce qu'il dit « Je préfère me battre avec le diable. » Moi, je ne me bats jamais avec le diable, en fait. « Je sais comment le chasser au nom de Jésus, mais se battre contre les hommes, c'est difficile, c'est épuisant, ils font l'objet de l'amour de Dieu. » Ah, une confusion extrêmement importante. On ne se bat pas avec le diable. Jésus, à un seul moment, on le voit qu'il se confronte, justement dans une faiblesse, mais c'est très prophétique, c'est pour nous apporter quelque chose. Sinon, il ne se bat jamais contre le diable. Hop, il chasse les démons, et les démons obéissent. Et en fait, moi, je fais pareil quand c'est vraiment un exorcisme, je ne me bats jamais, effectivement, contre le diable. Mais tout le temps, comme Jésus, avec les pharisiens et les juifs qui parlent pour l'adversaire, qui font l'œuvre, justement, de Satan. Et c'est là où il fuit, en fait. Et donc, mon quotidien, c'est toujours, et le quotidien de tout le monde, le problème, c'est toujours les hommes qui sont inspirés par un esprit mauvais. C'est jamais le diable en tant que tel. En Apocalypse 13, 15, l'Antéchrist, il dit, il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât même, et que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent mis à mort. Bon, et certains disent, et ça doit être vrai, que animer l'image de la bête, c'est que le gars qui passe à la télévision. Mais donc c'est un homme, c'est toujours bien un homme, d'accord ? Ça passe par un homme, parce que c'est ça le modèle du Nouveau Testament. En fait, on ne se bat jamais contre les diables, même dans une possession. Mais parce que dans leur mouvement, ils adorent passer des heures à combattre le diable dans les possessions. Sauf que vous avez des vidéos là-dessus dans nos formations, ça ne marche pas comme ça. Moi, j'ai eu le cas de quelqu'un qui est au Bénin, qui à un moment donné, je voyais qu'il avait des grosses difficultés spirituelles, Et là, il me racontait justement que, il avait, à un moment donné, été dans un groupe, et puis l'esprit lui a dit qu'il y avait un esprit mauvais chez quelqu'un qui était une sorcière en fer. Donc, il a commencé à faire un exorcisme, et ça a passé 45 minutes. Alors, comme dans tous ces modèles pentecôtistes, c'est roulé par terre, roulé par terre, roulé par terre, et puis au final, ça n'a rien donné, évidemment, puisque la sorcière en question a fui. Elle ne voulait pas qu'on bouscule par rapport à ça. Je lui ai dit, mais pourquoi ça dure 45 minutes? Pourquoi, quand moi je le fais, ça dure moins d'une minute et que toi, ça dure 45 minutes? Et la réponse était merveilleuse. Ah, parce que l'esprit mauvais, il ne voulait pas partir. Mais évidemment qu'il ne veut pas partir. La dame ne veut pas. Tu la forces. Dans tous les modèles de Jésus, c'est les personnes qui veulent, évidemment. Quand la personne ne veut pas, tu ne vas pas forcer. Toujours pareil. C'est le libre arbitre. Je suis l'esprit que tu veux. Ce n'est pas mon problème par rapport à ça. Par contre, si tu veux changer d'esprit, on est là. Si tu veux, bon, c'est tous ceux qui vont vers Jésus, à la fois pour les guérisons, ils vont vers. C'est pour ça qu'il dit, c'est ta foi qui t'a guéri. Voilà. Ça part sur toi où tu en es par rapport à ça. Bon. Et donc c'était une catastrophe parce que quel est l'esprit qui lui a montré ça? C'est pas le bon esprit. Et il y avait plein de fois en fait, c'était pas le bon esprit. C'était en fait des messages qui étaient modifiés. C'est celui dont je parle dans les formations qui tout d'un coup a reçu un message qui serait un grand prophète, le nouveau prophète Jérémie dans toutes les nations, etc. Bon, encore une grandeur et tout ça. Malgré que je lui ai dit que c'était un faux message. Il se fait appeler encore une fois prophète Jérémie au jour d'aujourd'hui, c'est hallucinant. Et à un moment donné, il me disait aussi que Dieu lui avait demandé, par rapport à sa maison, de mettre du sel aux quatre coins. Je me suis dit, mais pourquoi Dieu a besoin de sel? Le Saint-Esprit n'est pas suffisant. Parce que, donc, c'était pas Dieu, évidemment, qui demande de mettre du sel aux quatre coins de sa maison. Parce que ça parle à ses pensées, il est d'accord avec ça, il a toujours vu les sorciers dans les églises pentecôtistes, etc., faire ça. Donc il est d'accord avec ça. Donc l'adversaire lui dit, fais ça. Et il pense que c'est Dieu. Ça marche selon ses pensées. Il n'a pas mis longtemps à chuter, et il a essayé effectivement de détruire l'église comme tous ceux qui changent d'esprit hein, par rapport à ça. C'est toujours une attaque contre nous, et moi le premier, c'est toujours moi qui m'en prends dans un premier temps. Parce que là, justement, dans ce phénomène-là, c'est pas qu'il est possédé, j'avais vu dans la vision d'ailleurs l'esprit qui l'influençait énormément. Mais ça veut pas dire qu'il était possédé, ça veut dire que l'esprit mauvais est passé par lui pour passer des messages. Et je l'ai vu plein de fois, hein, quand il essayait de décourager quelqu'un en passant dans mon dos pour dire ne fais pas ça, quand une femme par exemple avait un rêve pour entrer dans son ministère, il passait derrière mon dos. C'est pour ça que j'arrête d'échanger les contacts quand c'est pas Dieu qui me le demande, tout simplement, pour lui expliquer qu'elle doit rester à la maison et à la cuisine parce que c'est la volonté de Dieu, quoi. Voilà. Mais le même jour, la même heure, c'est vraiment conduit par un esprit mauvais. C'est ça ce modèle-là. Ils sont extrêmement dangereux, ceux-là, hein, par rapport à ça. Ils attaquent tout, ils détruisent tout, véritablement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont possédés, toujours pareil. 1 Jean 2, versets 18 à 19. Petite enfant, c'est la dernière heure, et comme vous avez entendu dire qu'un antéchrist vient, aussi maintenant y a-t-il beaucoup d'antéchrists. Car par là nous connaissons que c'est la dernière heure, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils se demeuraient avec nous, mais c'est afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Donc on parle d'Antéchrist, homme conduit par l'esprit mauvais, comme Jésus est conduit par l'esprit de Dieu. Voilà. Et il continue en disant, le discernement des esprits te permet de voir s'il y a un ange qui ressemble à une personne. J'avoue que c'est extrêmement confus, parce que c'est faux en plus, puisque... il enchaîne sur le fait qu'il a vu un ange. Alors, je sais très bien l'ange qu'il a vu, moi j'ai aucun problème, je connais parfaitement les messages. Il dit, ah, je ne peux pas vous dire le message, mais si, on le connaît. Hein. Il te dit, tu vois, t'es le nouveau Élie, hein, onction de multiplication, bien sûr. C'est toujours le même message d'ailleurs. Ces esprits-là, ils passent le même message à des personnes qui l'entendent par leur pensée, justement, par la chair. Ils adorent ça, ils veulent être Élie, ils veulent l'onction de multiplication, et le message c'est ça. Toujours ça. Ou des variantes, mais on reconnaît facilement. Alors, donc, bon, on passe sur la vision des anges, c'est complètement faux, parce que si c'est l'apparition d'un ange dont tu parles, parce que ça c'est très confus ton truc, t'as pas besoin d'avoir un discernement des esprits pour ça. Moi, quand j'ai vu l'apparition d'un ange, j'étais loin d'être totalement conduit par l'esprit. Je démarrais, mais justement, ça m'a marqué. C'est là où tu as besoin, justement, de choses comme ça, qui sont vraiment visibles, quoi. Et voilà ce qu'il dit. Le discernement des esprits permet de détecter les faux enseignements et les doctrines trompeuses. Non, c'est faux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas automatique, ça s'acquiert, ça, en fait, contrairement à ce qu'il veut nous faire croire. C'est automatique. Donc si vous discernez rien, tout va bien. C'est faux. Éphésiens 4, versets 13 à 14, jusqu'à que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à l'état d'enfer, à la mesure de la stature parfaite du Christ. C'est le but des mystères. Grandir à la stature parfaite de Christ, virgule, afin que nous soyons plus des enfants, flottant et emportés çà et là par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les artifices de l'égarement. Autrement dit, tant que tu n'as pas suffisamment grandi dans la stature parfaite du Christ, tu es encore comme un enfant, flottant et emporté çà et là par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse, dans les artifices de l'égarement. Et c'est le problème des personnes qui chutent en cours de route, parce qu'ils n'ont pas encore suffisamment grandi dans l'esprit. Tout est progressif, en fait. Et proportionnel complètement au renouvellement des pensées. Et je fais souvent cet exercice-là avec des personnes qui ont des difficultés. Dieu leur demande de quitter l'église où il y a une mauvaise doctrine, mais ils n'y arrivent pas parce qu'il y a plein d'attachements charnels. Il y a toujours des empêchements par rapport à ça. Alors, souvent, ce que je fais, ça marche très bien, et ils commencent à me dire, oui, je vois certains problèmes, et ils sont loin du compte. Donc, on va sur la chaîne YouTube de la église, je lui dis, commence en fonction de ce que tu vois. T'écoutes les prédications, parce que déjà, c'est extrêmement compliqué quand on est sur place. Il y a tout le côté des autres, on n'a pas le temps, on ne met pas sur pause, on ne peut pas vérifier, donc on se fait embarquer. Et tout le monde fait ça. C'est pour ça que c'est à distance et sur YouTube, vous pouvez mettre sur pause et vérifier. Ça change tout. Et donc, il regarde la prédication et je lui dis, voilà, qu'est-ce que tu as vu? Ah, il y a ce problème-là et ce problème-là et ce problème-là. Je lui dis, ok, maintenant j'y vais. Alors, je reprends tout, look. Et j'en trouve 10 des problèmes, comme là je fais en fait. Bon. Donc, ça s'apprend. Et là, j'ai eu la joie d'entendre Christophe, qui est un pasteur avec un puissant don prophétique, et dont le don prophétique se développe d'ailleurs. Et la question qui se pose, c'est que s'il a pas, d'après ce que lui a montré Dieu, une double casquette de pasteur-prophète. Au jour d'aujourd'hui, alors qu'on a fait ça pendant plusieurs mois pour l'aider justement, et qu'il était dans les premiers temps, je vois deux problèmes, moi j'en vois 10, au jour d'aujourd'hui, il m'a dit, tiens, je suis retourné sur le YouTube de mon église, ok, j'ai pas, ça a été insupportable au bout de 3 minutes. Il le voit donc maintenant, d'accord? Et tu es dans une autre, une méga church, tout est charnel, mais il le voit au bout de 5 minutes par rapport à ça. Est-ce qu'il a augmenté dans l'esprit? Quelque part, oui, mais ça s'apprend. C'est à ça que servent toutes les formations, à le renouvellement de l'intelligence, pour que vous connaissiez la vérité. Et donc, tout de suite, vous voyez quand il y a un problème par rapport à ça. Il y a tout un côté, ça s'apprend. C'est progressif, contrairement à ce qu'il nous dit. C'est pas automatique, cette chose-là. Voilà ce qu'il dit. Le discernement des esprits permet de reconnaître les infiltrés, ceux qui n'ont pas les mêmes esprits que nous. Voilà. Donc ceux qui n'ont pas le même esprit que nous, c'est les infiltrés de l'adversaire. Et là, je me reconnais. Dans toutes ces églises, chaque fois, j'étais pas comme eux. Donc j'étais diabolique. Voilà. C'est le raisonnement. Toujours pareil, notre logique spirituelle. Et à un moment donné, la personne qui a un discernement des esprits, c'est celui qui est dans le groupe, je le sens pas. Non, c'est encore autre chose. Bon, enfin bref, passons. Alors, c'est pour ça qu'il est dit, effectivement, et on va terminer là-dessus, 1 Jean 4, versets 5 à 6, eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent le langage du monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. À cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Jean dit, comme Jésus, deux types d'esprits. Il n'y a pas le humain possédé, pas possédé, le diable derrière. Alors c'est vrai que quelqu'un qui est possédé, c'est beaucoup plus violent. Mais dans 99% des cas, les problèmes viennent de personnes influencées sous où l'adversaire parle par eux. 99% des cas, notre l'attaque spirituelle la plus courante, c'est celle-là, en fait, par rapport à ça. Parce qu'il y a deux esprits. L'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. C'est-à-dire que les pensées humaines sont esprits de l'erreur, sous la domination du prince du mal qui passe par ça. Et plus vous avez une réaction charnelle, plus l'adversaire va passer par vous. Et vous aurez le. Parce que vous n'arrivez pas à mourir à votre vie humaine. Et j'ai remarqué que des personnes qui ont des difficultés à un moment donné, bah c'est, et en fait, ils utilisent toujours les mêmes phrases, parce que c'est selon l'esprit du monde, en fait. Ils s'en rendent pas compte, moi j'ai l'habitude. Quand ils disent « Ah, cet enseignement-là, machin, machin », ok. Moi, les premières fois, je connaissais pas. Donc je me dis « Attends, on va reprendre les 10 versets ». Mais jamais ils me citent les versets, en fait. Parce qu'ils me disent toujours la même chose, ça correspond pas à ce que je pense. Je dis « D'accord, mais on est là pour justement le renouvellement des pensées, donc... » on ne va pas voir les 10 versets du tout. On ne voit jamais les 10 versets. Je reste là avec mes versets. Pourquoi ? Parce que ceux qui pensent, c'est la vérité. Ils font selon leur pensée dans ce genre de cas. Parce qu'à un moment donné, ils ont été charnels et ils sont rentrés là-dedans. Et là, ça bloque. Ça bloque. Parce que justement, plus vous êtes dans selon vos pensées, moins vous êtes selon l'esprit. Il n'y a que deux esprits, vérité et erreur. Vous voyez la difficulté ? Donc vous êtes dans une autre logique spirituelle par rapport à ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On va terminer. Alors ça a été évidemment plus long comme je vous l'ai dit, mais tellement ce sujet est important et massif, il fallait qu'on approfondisse tout ça. Remarquez un élément. Dans ce podcast, il y a 30 passages bibliques. Pourquoi ? Parce que on part toujours de ce que nous dit Jésus, ce que nous dit le Nouveau Testament. Et on vérifie ce principe-là dans d'autres passages. C'est toujours un verset n'est jamais un message. Comme il dit dans la formation. C'est l'ensemble du message de l'esprit qui nous intéresse. D'accord ? Donc, effectivement, il y a 30 passages, puisqu'on approfondit par rapport à ça. Mais dans le podcast, là, dont je parle, il y a deux podcasts. Je parle de deux podcasts. À chaque fois, c'est 30 minutes. En tout, il y a 15 versets. Donc, il y a beaucoup, beaucoup moins de versets. Pourquoi il y a beaucoup, beaucoup moins de versets ? Ben, pour une raison... Enfin, 15 passages, pardon. Pour une raison très simple. C'est que son enseignement, c'est ce qu'il dit. Les passages bibliques ne sont là que pour appuyer ce qu'il dit. Donc, ça part pas du tout de ce que dit Jésus. Par exemple, c'est tout le thème de ce podcast, de ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, ça parle de ses pensées. Et il met un passage biblique qui a l'air... de dire pareil, mais en général, non. Et c'est l'autre difficulté, non seulement il y a très peu de passages bibliques, parce que cet enseignement, c'est ce qu'il dit, en fait, mais également, comme on l'a vu, un grand nombre de passages bibliques sont complètement utilisés juste pour asseoir sa doctrine, et ça n'a rien à voir avec le bon esprit. En plus, ce qu'il dit, souvent n'est pas bon. Mais il y a du vrai, c'est toujours un mélange de vrai et de faux. C'est pour ça que dans toutes nos formations, on va toujours chercher le message du Nouveau Testament. Jésus, Paul, Pierre, Jacques, etc. Avec tous les problèmes, effectivement, de traduction et les problèmes d'interpolation des textes qui sont à rajouter. Voilà, pour terminer, comme c'est la dernière série de podcasts a en fait porté beaucoup de fruits chez les personnes... au jour d'aujourd'hui, vous pouvez trouver le podcast à l'identique sur Spotify, sur Deezer, sur Amazon Music, et c'est en cours également sur YouTube Podcast. Par contre, là, c'est manuel, donc il faut mettre tous les épisodes un peu manuellement. Donc voilà, c'est pour vous permettre d'écouter le podcast dans plein de médias différents. À bientôt.